Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous aviez à peine 13 ans lorsque la découverte d'une cassette de Bob Marley vous a fait plonger dans le grand bain du reggae. Depuis, vous avez effectué de nombreux voyages en Terre Sainte, hein, du reggae, en Jamaïque donc. Vous êtes également la tête d'un label qui produit des disques vinyles de reggae avec des musiciens jamaïcains. Pour vous, la naissance officielle du reggae le 1er juillet 1968, c'est juste ?
Ouais, c'est un poil tard, on a un petit poil, ils ont dû choisir une date. Peut-être ça correspond avec la mort de Dennis Brown, qui est une des grandes idoles du peuple jamaïcain pour le reggae. C'est plutôt le printemps, on peut pas fixer de date précise, mais ce serait plutôt avril, mais s'il fallait donner une période vraiment un peu plus précise pour la naissance du reggae. Mais forcément, c'est des mouvements musicaux qui sont en évolution, donc on peut pas dire ce jour-là, on est passé du rocksteady, qui était le genre musical qui l'a précédé, au reggae, mais on dit le printemps 68. C'est quand même une période assez évocatrice dans pas mal d'endroits dans le monde. Donc le reggae est né à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui différencie le reggae des autres genres musicaux ? Son message de résistance à l'impérialisme, ses origines jamaïcaines ?
Alors non, parce que le message, oui, mais ça va se développer un peu plus tard. Musicalement, on a deux genres qui sont déjà typiques de la Jamaïque, qui sont le ska, qui a commencé au tout début des années 60, mais c'est vraiment établi en 62 et correspond vraiment avec l'indépendance jamaïcaine, et puis qui a duré de 62 à 66 en gros. Et de 66 à 68, on a eu ce qu'on appelle le rocksteady, qui est un genre qui est peut-être le moins connu dans le monde, mais qui est sûrement pour les Jamaïcains d'un certain âge celui auquel ils sont le plus attachés, qui est une musique très romantique, un peu l'équivalent soul, comme ça, pour la Jamaïque. Après, ce sont des changements, c'est du changement du jeu, de la basse, c'est la perte d'importance des cuivres et la montée en force de l'orgue et de la guitare. Donc, ce sont vraiment des petits changements que des musiciens ont amenés en studio à un moment et qui sont devenus une mode et qui ont tout d'un coup vraiment complètement submergé l'île. Donc, c'est toujours difficile. Il y a des grands débats pour dire tel morceau est le premier. On peut pas dire exactement. Il y a eu des périodes comme ça de transition. Mais la musique jamaïcaine était déjà une musique à part en tant que telle à partir de 62, je dirais. Mais le reggae est vraiment devenu, voilà, c'est pas pour rien que c'est devenu le symbole. Ça, c'est vraiment une musique qui est purement, purement jamaïcaine, toujours très influencée par les États-Unis, parce que, voilà, il y a ce colosse culturel qui est à une heure et demie d'avion. On est tout près de la Floride, faut jamais l'oublier. Les Jamaïcains ont toujours entendu la radio américaine, donc ils sont nourris de ces musiques-là. Quand on parle avec des musiciens jamaïcains, quels sont vos artistes préférés, ils vont toujours citer des artistes noirs américains. Donc cette influence, elle est là, mais à partir de là, vraiment, il y a une affirmation de culture et d'identité culturelle jamaïcaine qui se renforce et qui passe notamment par une musique qui ressemble de moins en moins à ce qui se fait ailleurs. Donc c'est vraiment une évolution à la fois de l'ère du temps politique, d'affirmation vraiment de l'identité, de fierté. On est à peine 6 ans après l'indépendance. Faut toujours se rappeler que c'est une nation qui est toute jeune à cette période-là. Et l'évolution de la musique, la musique est tellement importante dans la vie quotidienne jamaïcaine qu'elle est toujours collée très près aux événements politiques et sociaux.
On dit que c'est de la Jamaïque, c'est l'île la plus bruyante du monde, hein, Jean-Michel.
Oui, c'est excellente définition.
Justement, vous parliez de l'identité culturelle. Alors, le reggae est généralement associé au Rasta. Les deux mouvements sont vraiment étroitement associés.
Oui, alors moi, je dirais qu'il faut voir deux ensembles qui se coupent à un endroit. Il y a le reggae d'un côté, il y a Rastafari de l'autre. On a une perception un petit peu faussée en Europe parce qu'on a découvert les deux en même temps par la même personne qui est Marley, qui était un artiste reggae et un Rasta. Mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'en Jamaïque, bien sûr, les Rastas ont une influence forte, mais c'est moins de 10% de la population, donc plus de 90% n'est pas du tout Rasta, et au contraire, vraiment chrétienne, très, je dirais même bigote, hein, c'est vraiment... c'est réputé pour être le territoire au monde qui a le plus d'églises au kilomètre carré, et le dimanche, chaque église fait 3 cultes, parce qu'il faut avoir tout le monde, avoir la place pour tout le monde, donc c'est vraiment une île qui vibre de ça. Donc le message Rasta, à part une petite période où il a été à la mode en Jamaïque, généralement auprès du grand public dans la première moitié des années 70, ça ne parle pas vraiment aux classes populaires, aux gens qui, quand ils vont danser, ils ont envie d'écouter des histoires d'amour, de la vie de tous les jours. Et puis, de notre côté, pour beaucoup de Rastas, qui sont les Rastas les plus fervents, voire intransigeants, le reggae n'est pas acceptable, il est déjà beaucoup trop... babylonisé, donc Babylone c'est le symbole du système combattu, et il y a tout ce côté, c'est des instruments électriques, ce sont des instruments importés, donc pour les Rastas, une bonne partie d'entre eux, ils n'acceptent pas le reggae. Ils ont une musique à eux qui s'appelle la musique Nayabingi, qui est vraiment axée sur la percussion et les chants, qui est une très belle musique d'ailleurs, beaucoup moins connue. Et donc, il y a vraiment, et bien sûr que l'un a nourri l'autre. Donc, sans reggae, on n'aurait jamais entendu parler de ce culte rasta. Le culte rasta et cette foi très puissante a aussi donné une force particulière au reggae. Donc, ils sont nourris l'un l'autre, mais il faut pas les voir comme consubstantiels. C'est qu'une partie où ces deux mondes se croisent. Mais il y a une vraie, on me pose souvent la question, quelle est la différence entre reggae et rasta pour dire à quel point la confusion est forte, alors que d'un côté on a une religion, même si certains discutent de cette définition-là, et de l'autre un genre musical. Donc c'est deux choses complètement différentes, mais qui ont été incarnées aux yeux du monde entier par la même personne qui était Bob Marley.
Bon, avant Bob Marley, on va se plonger dans les racines du reggae avec un titre que vous nous avez suggéré, Bangarang de Stranger Call. Vous nous en dites juste quelques mots puis on l'écoute en même temps.
Oui, parce que c'est un des morceaux régulièrement cités pour être le premier reggae. En plus, c'est vraiment c'est du patois, donc c'est vraiment la langue jamaïcaine. Le bangarang, ce sont les problèmes, c'est ils ont beaucoup de mots pour ça. Chatty chatty, c'est vraiment toutes les discussions, c'est vraiment les soucis, quoi. Les bangarang, le fait de parler, de critiquer les uns les autres. Et Stranger Call, un artiste avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est vraiment une vieille légende, qui est là depuis le tout début du ska. Mais j'ai choisi ce morceau parce qu'il incarne vraiment le début du reggae, c'est vraiment ce son-là.
Origine du reggae avec Stranger Call et Bangarang.
Et quand on parle du reggae, Marc Ismaël, on ne peut pas ignorer Bob Marley. Si le reggae a conquis toute la planète, est-ce que c'est grâce à lui ?
Oui, bien sûr. Je dirais que Marley est à la fois une extraordinaire bénédiction pour la Jamaïque. Chaque fois qu'on parle du phénomène Jamaïque et reggae, il faut toujours, je pense, rappeler des chiffres, c'est que la Jamaïque, c'est 10 000 km², donc un quart de la Suisse, et 3,5 millions d'habitants. Donc c'est vraiment un minuscule petit point dans la mer des Caraïbes. C'est extraordinaire qu'on soit aujourd'hui, un demi-siècle plus tard pratiquement, en Suisse, à parler de ce genre musical. Donc il faut toujours réaliser à quel point c'est extraordinaire que ça soit passé. Bien sûr que la personne de Marley et sa combinaison avec le producteur Chris Blackwell, c'est ça vraiment, ce binôme qui a réussi cet exploit-là. Le problème, c'est que Marley a été tellement énorme aux yeux du public occidental et même du public mondial, c'est que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, donc c'est très difficile pour les autres de percer, alors que c'est une scène d'une richesse extraordinaire. Il y a vraiment il y a des centaines d'artistes qui valent la peine qu'on se penche sur leur œuvre, et Marley était tellement omniprésent que, voilà, à partir du moment où c'est très net, il est mort en 81, tout s'est écroulé parce que, aux yeux, que ce soit des médias ou des organisateurs de concerts, Marley est mort, le reggae est mort. Donc c'est ça un peu le côté négatif, mais de l'autre, voilà, il y a une vraie figure extraordinaire, un vrai talent, un charisme, mais ça n'aurait pas été possible sans le flair du producteur Chris Blackwell, qui a senti que, avec quelques concessions, qu'en tant que puriste, on se dit toujours, ah, c'est dommage, ça sonnait mieux sans ces guitares rock et ces synthés qui ont été rajoutés. Mais grâce à cette démarche-là, il a réussi à faire entrer Marley et le reggae auprès du public rock. Et c'est ça la clé, c'est grâce à ça. C'est vraiment, c'est les publics blancs qui a découvert Marley, qui a adhéré. C'est très frappant aux États-Unis, ça c'était le grand deuil de Marley. Il n'a jamais réussi à toucher vraiment la communauté noire américaine qui avait... Il n'y a pas de place pour ça. La musique noire américaine est déjà tellement... Il y a tellement de styles, tellement de puissance culturelle déjà qu'ils n'ont pas réussi à s'imposer là. C'est vraiment les blancs notamment aux États-Unis, où là c'est frappant, qui l'ont accepté à ce moment-là. Et donc, c'est difficile de dire exactement pourquoi, mais c'est clair que c'était un talent extraordinaire, un fabuleux auteur de chansons. Les textes sont vraiment, sont vraiment d'une puissance assez rare. Et c'est toujours dommage parce que, comme souvent, on a une image un peu biaisée, à la fois de Rasta et de Marley. On a une image un peu légère, un peu reggae de plage, parce que ce sont les mêmes morceaux qui passent toujours, Could You Be Love, This Is Love, qui sont gentils, mais il y a tellement plus fort dans l'œuvre de Marley que ça vaut vraiment la peine d'aller derrière et d'aller découvrir ce que lui avait à dire, parce que il y a vraiment le message a beaucoup joué. C'était aussi une période où, auprès de ce public occidental, il y avait une attente de cette voix-là, cette voix du tiers-monde, cette voix des opprimés. Ça a vraiment joué un rôle très important.
Concrete Jungle, c'est ce titre-là dont on va écouter un extrait de Bob Marley. Format reggae ce matin dans Format 3, puisque le 1er juillet, eh ben oui, figurez-vous que c'est la journée internationale du reggae. Notre spécialiste reggae, c'est Marc Ismail. Et Marc Ismail, je crois qu'entre Neuchâtel et le reggae, il y a des liens assez forts. Il y a une histoire assez incroyable.
Oui, il y a une histoire vraiment fascinante qui s'est développée à un moment, justement, j'en parlais tout à l'heure, où cette grande vague internationale qui a duré, en gros, on va dire 76-81, donc l'explosion internationale de Marley qui a fait le tour du monde, rempli les stades aux quatre coins du monde. Marley meurt et là, tout d'un coup, tout s'arrête. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu vraiment des passionnés, des gens qui ont été touchés par qui était beaucoup plus qu'une mode pour eux, qui ont commencé à garder ce reggae-là vivant. Et notamment parce qu'en Jamaïque, il évoluait beaucoup, il est devenu ce qu'on appelle le dancehall, donc il y a vraiment eu un changement musical. Mais là, c'est des gens qui sont restés attachés à ce qu'on appelle le reggae roots. Et puis donc ensuite, le premier foyer, ça a été Zurich, vraiment le premier foyer important pour le reggae à la fin des années 70. Mais au début des années 80, il y a un certain nombre de personnes à Neuchâtel, notamment Marc Trouchaninov, qu'on appelle Nof Nof, Alain Salvi, ces gens-là, qui ont commencé à vraiment, voilà, à se passionner pour ces gens-là. Et petit à petit, il y a eu un petit noyau qui s'est créé autour de gens, des musiciens qui s'appellent Antonello Lubello, qui s'appellent Phil Sanchik. Et donc, c'est ce qui était vraiment des jeunes qui ont appris la musique pour faire du reggae. C'est-à-dire que, voilà, ils ont pris un instrument et se sont dit, on veut faire du reggae. Et ils ont créé en 1983 un groupe qui s'appelle le Heartbeat Band. Et puis, il faut dire, en 83, à part l'Angleterre qui est à part, parce que, voilà, il y a vraiment un rapport très très fort, parce qu'il y a une grande communauté jamaïcaine en Angleterre. Le reste du continent, en 83, c'est très très tôt pour avoir des groupes reggae. Hein. C'est vraiment, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et puis, ce qui est très particulier avec Neuchâtel, c'est que entre 88 et 89, il y a eu un invité d'honneur très prestigieux, qui est une véritable légende de la musique jamaïcaine, qui s'appelle Rico Rodriguez.
Et voilà.
C'est un tromboniste
qu'on entend derrière nous.
Voilà, on entend justement les Mad Lighters, qui sont l'évolution de la Heartbeat Band qui a changé de nom. Et donc, je veux dire, quelques mots de ce monsieur-là qui a commencé bien avant le ska, déjà à l'époque de jazz jamaïcain des années 50. Lui a vécu 2 ans à Neuchâtel, où il est devenu une petite figure, où il allait jouer au cricket. Les Jamaïcains aiment beaucoup le cricket avec des Indiens au bord du lac. Il allait voir les matchs de Xamax. C'était impossible de mettre une répète pendant les matchs de foot. Donc voilà, il a vécu 2 ans là, où ils l'ont vraiment retapé. C'était une période très difficile pour lui, parce que le reggae était devenu vraiment électronique, digital en Jamaïque. Il n'y avait plus de boulot pour les musiciens. Ils l'ont fait venir, il est resté là 2 ans. Et il a vraiment... Autour de lui s'est créé un pôle vraiment extrêmement intéressant qui après s'est manifesté avec les Moonraisers, quand au début des années 90,
pendant la Junior Chaka,
tous ces gens-là, ils restent vraiment. Je dirais pour la Suisse romande, le focus s'est déplacé sur Genève, mais il y a vraiment eu des racines côté plantées à ce moment-là à Neuchâtel qui sont extrêmement intéressantes à étudier, parce que voilà, on a eu vraiment un foyer qui a été implanté par des gens qui avaient cette passion pour cette musique et qui... vraiment loin des projecteurs, mais on continuait à la faire vivre. Et ces gens-là ont joué un rôle très important pour garder cette musique vivante, malheureusement loin des médias. Là, je vous salue et je vous remercie de mettre une fois le focus là-dessus. Ça fait toujours plaisir parce que je trouve que cette merveilleuse musique n'a pas la place qu'elle mérite dans les médias généralistes.
Donc, merci à vous. Merci beaucoup, Marc. Je suis désolée, on va devoir déjà se quitter. Mais bon, il paraît que février, c'est le mois du reggae. On reçoit pendant tout le mois de février. Et puis, mais évidemment, oui, on mettra toutes les informations sur le blog ainsi que le lien vers votre label. Et puis, pour histoire de suivre également vos aventures jamaïcaines prochainement. À bientôt.
Belle journée.
À bientôt, merci.
Et bonne journée du reggae.
Revoir,